Édict religieux par le père Philippe à Saint-Joseph, le 6 mars 90.
Propose de l'abandon. Comment notre Créateur est pour nous Providence? Le Créateur est Père. Il est Providence en ce sens que il nous conduit vers notre bonheur. Par rapport à la finalité que nous devons rechercher, que Dieu est Providence. Alors, c'est la distinction entre la Providence et le gouvernement divin qu'on voit quand on regarde les différents attributs de Dieu. La Providence, c'est Dieu qui a cette sollicitude vis-à-vis de toutes ses créatures, mais spécialement vis-à-vis de la créature spirituelle, et qui la conduit vers sa fin ordonnant tous les moyens. Et le point de vue du gouvernement de Dieu, c'est l'exercice, c'est l'application de la providence. Donc, vous voyez, le lien entre l'abandon et la providence, c'est qu'on sait que tout ce que nous vivons concrètement est ordonné par Dieu vers notre bonheur. Prenez l'exemple simple de tel ou tel obstacle qui peut arriver dans notre vie, tel ou tel échec. Nous voyons que cet échec ne doit pas être regardé comme quelque chose qui arrête, comme un mur qui nous empêche d'aller plus loin, mais comme un moyen de prendre du recul pour nous servir de ce moyen en vue d'un plus grand amour. Voyez, on peut s'arrêter devant un échec, on est fatigué. Ah oui, c'est ennuyeux d'être fatigué. Alors, on peut à ce moment-là se morfondre d'être fatigué. Alors qu'à côté de nous, il y en a qui sont moins fatigués. Se morfondre de la fatigue. On peut dire au contraire, la fatigue, Dieu s'en sert pour une stratégie divine pour me mettre un peu à l'abri, pour le retrouver plus profondément. Mais alors là, c'est l'abandon. Je me remets entre les... Je ne comprends pas. On ne comprend pas. Parce que de fait, pensez toujours à cette comparaison. Quand vous regardez une tapisserie, quand vous la regardez à l'endroit, vous voyez très bien ce que c'est. Quand vous la regardez à l'envers, c'est très curieux de regarder une tapisserie à l'envers. Vous ne voyez que des nœuds. Voyez, Freud a regardé la tapisserie à l'envers. Il n'a vu que des nœuds, des complexes. Il n'a vu que ça. Uniquement. Alors, il n'y a que des nœuds. Je ne comprends rien. Je ne vois que des nœuds. Oui, mais ces nœuds sont en vue de quelque chose de mis en relief. Et au fond, Freud regarde la tapisserie à l'envers. D'où ça aboutit à dire le complexe d'Œdipe. L'homme, c'est une série de complexes. Et un complexe fondamental sans lequel les autres complexes n'existeraient pas, c'est le complexe d'Œdipe. Et tout est là. Mais la raison sine qua non. Faut qu'on a compris ça, on voit très très bien. C'est intéressant, du reste. C'est intéressant de regarder les nœuds d'une tapisserie. Mais c'est pas très drôle de ne regarder que ça. Si vous la renversez, vous voyez. Ça va. Dans le dernier cours, vous disiez que Dieu crée une nature. Pourriez-vous expliciter cela? existantes, qui ont une nature. C'est comme ça que Dieu crée des principes. Il ne crée jamais des principes en soi. Jamais. Il crée des réalités qui sont structurées et dont l'homme lui est saisi. Dieu ne contemple pas la nature. Il contemple des réalités. On contemple une personne. On ne contemple jamais une nature. C'était le père Garrigou-Lagrange qui disait « Quand vous promenez, promenez-vous avec des principes. » Et contemplez ces principes. Vous essayez de comprendre leur structure, très bien, leur principe, très bien. Vous voyez, Dieu ne crée pas des principes, il crée des réalités existantes qui ont une structure et dont j'ai découvert les principes. C'est comme ça qu'il crée les sens, les essences. C'est Avicenne qui disait que Dieu crée des essences. Et c'est pas juste, ça c'est le néoplatonisme d'Avicenne. Que signifie se remettre ou remettre tout l'univers entre les mains de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas indépendamment de notre volonté entre les mains de Dieu? Ah oui. Oui, mais Dieu veut que ce soit par notre volonté. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous le sommes radicalement entre les mains de Dieu, puisque notre âme est créée par Dieu. Le démon est entre les mains de Dieu, mais il ne veut pas. Toute la différence. Je n'ai pas envie d'être démon. Le démon, c'est celui qui est entre les mains de Dieu uniquement parce qu'il existe. Parce qu'il existe, c'est entre les mains de Dieu. Le bon ange est entre les mains de Dieu parce qu'il veut être entre les mains de Dieu. Vous voyez ? C'est la frontière entre le démon et le bon ange. Est-ce que cette remise de nous-mêmes entre les mains de Dieu ne relève-t-elle pas plus de l'abandon que de l'adoration? Elle relève de l'adoration fondamentalement et elle relève de la providence. Elle relève des deux. De l'adoration fondamentalement. Pour être abandonné, il faut être adoré. Autrement, vous ne serez jamais abandonné. Vous serez superficiellement. Dès qu'il y aura un gros orage et une grosse tempête, vous ne le serez plus. J'avais pas prévu ça. Ah oui, justement, parce que vous n'êtes pas assez abandonné. Il faut aller jusqu'à l'adoration pour être vraiment abandonné. C'est-à-dire tout remettre. C'est pour ça que l'adoration est ce qu'il y a de fondamental dans l'abandon. Est-ce que vous voyez bien ça? Ça répond à vos questions. Je peux être abandonné sans adorer, du moins sans adorer actuellement, mais dès qu'il y a ça, ils sont très sensibles à ça. L'hubris, l'orgueil, nous met dans une attitude de rivalité à l'égard des dieux. Et les Grecs sont très sensibles à ça. Se mettre dans une attitude de rivalité à l'égard de Dieu, ça ne va pas. Voyez, éthique religieuse à l'égard des dieux. Vis-à-vis des hommes, l'orgueil, on le verra ça en politique, ça irrite les hommes. Il n'y a rien de plus irritant que de vivre à côté d'un orgueilleux. Qu'est-ce qui vous irrite le plus dans la vie commune? C'est l'orgueil de votre voisin. Ça, c'est vrai. L'orgueil, c'est-à-dire, ou, disons, la vanité. C'est encore plus irritant. C'est la différence entre le paon et le dindon. Le paon qui fait la roue, ça, c'est l'orgueil. C'est beau. Surtout quand il y a un peu de soleil. Et le dindon, c'est pas majestueux. Alors, c'est très irritant, la vanité. C'est terriblement irritant. Le moi, vaniteux. Bon. Tout le temps. On est au cœur. Il faut être au cœur de la conversation de tout le monde. Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, l'éthique fondamentale parlera d'une certaine modestie. Le moi est haïssable. Ça, c'est tout à fait l'éthique fondamentalement humaine. Ne parlez pas tout le temps de vous, ça devient un saumon. Il n'y a que vous au monde. Le moi est haïssable. Donc, il faut se mettre dans une attitude de modestie. L'éthique religieuse va beaucoup plus loin. Elle découvre que contre l'hubris, l'orgueil, qui risque de nous rendre rivales des dieux, il faut découvrir l'humilité. Alors, il faudrait faire la petite topique de l'humilité ici. Au point de vue éthique, ça vaudrait la peine, parce que l'humilité est quand même une vertu assez étonnante. Une vertu cachée, qui n'aime pas qu'on parle d'elle. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, de l'humilité. Ça ira assez vite, la topique de l'humilité, c'est assez curieux. Mais alors on aurait là cette chose étonnante d'un saint Benoît. Qui nous montre tous les degrés de l'humilité. Il faudra faire une fois un cours sur les degrés de l'humilité, mais c'est en éthique chrétienne qu'il faudrait faire ça. Parce que saint Benoît, c'est l'éthique chrétienne. Les degrés de l'humilité dans saint Benoît. Dans saint Benoît, dans la règle de saint Benoît, qu'est-ce qui est fondamental? C'est l'humilité. Le moine, c'est le spécialiste de l'humilité. Il s'écrase. Tout le temps. Il laisse passer devant lui tous les autres. C'est pas commode. Alors, quand je regarde l'humilité chez saint Benoît, c'est vraiment chrétien. Mais il y a... C'est pour ça que c'est en éthique chrétienne qu'il faut parler de saint Benoît. Mais on peut, en éthique religieuse, donner le fondement de l'humilité. En éthique chrétienne, c'est sous le modèle du Christ et de la Vierge Marie. En éthique religieuse, on cherche le fondement de l'humilité. C'est ce que je voudrais voir avec vous. Comment l'éthique religieuse nous montre que l'homme religieux qu'est-ce que c'est que l'humilité? Alors, fondement de l'humilité, c'est que notre âme est créée par Dieu, à l'image de Dieu. Et que dans chaque créature spirituelle, il y a quelque chose qui est un reflet de Dieu. Et que ce reflet de Dieu est unique pour chacun. Oui, le chiffre spirituel de l'âme de chacun, c'est plus le chiffre biologique. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose d'unique. Un reflet de Dieu qui est unique. L'humilité consiste à découvrir dans chacun ce reflet de Dieu qui est unique. Par où je laisse passer devant mon prochain? Parce qu'il a en lui quelque chose d'unique par rapport à Dieu. Il a un reflet de Dieu qui est unique. Là, je comprends comment l'inverse de l'attitude de l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est toujours premier et qui veut toujours s'imposer comme premier. L'orgueil, c'est cette attitude terrible de celui qui a toujours raison. Et qui veut toujours avoir raison. Et qui veut tout le temps s'affirmer comme celui qui a l'intelligence la plus parfaite, la plus pénétrante, la plus pertinente. Et donc s'affirme tout le temps comme le seul qui soit intelligent. Au terme, c'est ça. L'orgueilleux est le seul intelligent et n'accepte pas d'autre forme d'intelligence que la sienne. C'est pour ça qu'au terme, ça devient de la bêtise. Parce qu'affirmer qu'on est le seul intelligent, c'est ennuyeux, vous voyez. On ne le dira pas, mais on le pensera. C'est pour les autres. Jamais rencontrer quelqu'un de vraiment très intelligent. Non, non, non. Tandis que quand je réfléchis, je me dis, oh oui, je découvre tout de suite quelque chose que les autres n'ont pas dit. Alors ça, c'est extraordinaire. Je suis vraiment un génie de l'intelligence. Vous voyez, l'orgueilleux, c'est celui qui veut mettre en pleine lumière son côté génial de l'intelligence et qui découvre toujours ce qu'il y a d'unique. Les autres n'ont pas dit ça avant. C'est ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est l'intellectuel qui se gonfle. Et se gonfle d'une manière telle que personne ne peut passer devant lui. Il en est sûr et certain. Et il se plaît de ça. C'est très agréable. C'est très agréable d'être le seul intelligent. Parce qu'il domine sur les autres. Et demande aux autres de le reconnaître, ce qui est mieux. Mais chacun d'entre nous, nous avons un, n'oublions pas, là ça je dis ça en morale chrétienne, nota bene, hein, parce qu'en philosophie je ne peux pas le dire, en philosophie je pourrais dire simplement que c'est une tentation permanente de chaque homme de s'enorgueillir. C'est la tentation la plus forte qui est en nous. Alors, on se récupère toujours en disant que c'est une tentation d'homme intelligent. J'aime bien être tenté par orgueil parce que ça montre que quand même je suis intelligent. Si je n'étais pas intelligent, je ne serais pas tenté d'orgueil. J'accepterais d'être pauvre type. Pas intelligent. Mais... Non, non, vocation d'être premier. J'ai une vocation d'être celui qui va pouvoir donner l'intelligence aux autres. Nadis sont tout exemplaires. Ils sont nés pour être exemplaires. C'est une formule lapidaire du philosophe. C'est l'orgueil, ça. On est tous nés pour être exemplaires. Tous. Alors, au point de vue chrétien, notre béné, au point de vue chrétien, la concupiscence de la vie. Je sais qu'il y a en moi une poussée, mais radicale à l'orgueil. Et que c'est ma faute dominante, c'est mon péché dominant pour chacun d'entre nous. C'est pas la peine de faire une retraite de 30 jours pour savoir quel est votre péché dominant. Je vous le dis tout de suite. Pour chacun d'entre vous, c'est votre orgueil. C'est bien évident. Et si vous dites que non, ça vous ne l'avez pas encore compris. Mais vous le comprendrez un jour. Que c'est la faute dominante. Tout le reste est secondaire. Le péché, voyez, la faute, c'est l'orgueil. En éthique religieuse, je peux le dire tout de suite. Et l'orgueil m'empêche d'adorer. Quelqu'un qui n'adore plus, c'est l'orgueil qui pousse. Parce que, en définitive, on n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui passe avant Dieu. Et on voudrait prendre la place de Dieu. On ne le dit pas parce que c'est tellement gros. Mais au fond, c'est quand même ça. Et de temps en temps, ça peut se manifester. Or, justement, l'adoration me fait toucher du doigt, affectivement, que je ne peux pas passer devant Dieu. C'est pour ça que l'adoration me fait découvrir ce que c'est que l'humilité. Et c'est à partir de l'adoration que je découvre le mieux ce que c'est que l'humilité. Laisser Dieu passer devant. Voilà ce que fait l'adoration. Je laisse Dieu passer devant. Je le salue. Je l'honore. Je le remercie. Laissez Dieu passer devant. Il pourra me demander tout ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Et parce que je suis sa petite créature. Donc, tout vient de lui. Tout ce qu'il y a de bon en moi. Une fois que j'ai compris ça, je comprends que dans chaque créature spirituelle, il y a quelque chose d'unique. Et je désire découvrir ce quelque chose d'unique par où chaque créature spirituelle est à l'image de Dieu. Et quand je découvre ça, je peux, en toute vérité, laisser passer devant moi mon prochain, mon frère, il a quelque chose que je n'ai pas. Et ce quelque chose que je n'ai pas le met dans une originalité unique en face de Dieu. Et je le reconnais, donc je le laisse passer devant. Vous voyez, l'humilité, c'est ça, dans ce qu'elle a de radical. Découvrir que dans chaque créature spirituelle, il y a quelque chose d'unique. Par où il est à l'image de Dieu. L'orgueil, au contraire, c'est écraser l'autre. développant notre intelligence, on offre une matière à l'orgueil. Mais si on ne faisait pas les études intellectuelles par obéissance, il y aurait un très grand danger. Mais il n'y a pas que la philosophie, hein. Il y a les mathématiques, il y a l'orgueil mathématique. Oh là là! Ça existe, l'orgueil mathématicien. Il y a l'orgueil des savants, les prix Nobel. Oh là là, ils sont uniques. Il y a l'orgueil de l'officier, être maréchal. Il y a l'orgueil du curé, être pape. Ces reflets de Dieu, je le fais passer devant. m'anime, c'est de reconnaître qu'il y a d'autres qui sont plus grands que moi. C'est ça être magnanime. Tandis que si je mesure les autres à ma dimension, je ne peux jamais être magnanime. Tandis qu'au contraire, si par l'adoration, je reconnais que Dieu est mon Père, je reconnais qu'il peut y avoir d'autres hommes qui sont grands, parce qu'ils reflètent quelque chose de Dieu. Donc vous voyez, c'est la paternité de Dieu dans l'ordre de la création qui me permet d'être magnanime et de découvrir l'humilité. L'humilité, c'est d'être dans la vérité pratique. C'est la vérité pratique, l'humilité. On reconnaît qu'on a telle, telle qualité, mais que ces qualités proviennent de Dieu. Ça provient aussi de moi. J'ai essayé de les acquérir, mais ça provient de Dieu en premier lieu. C'est grâce à Dieu que je suis un. C'est grâce à Dieu que je suis humble. Vous voyez, Descartes a confondu l'humilité et la vérité. Alors il dira que c'est grâce à Dieu que je découvre la vérité. C'est vrai que c'est grâce à Dieu que je découvre la vérité, mais Dieu veut que je la découvre par moi-même. C'est là toute la différence. Tandis que l'humilité, je ne peux pas être humble sans Dieu. Vous voyez, Descartes a fait Dieu garant de la vérité. Alors que Dieu est garant de l'humilité. Parce que dans l'ordre affectif, il faut nécessairement reconnaître que Dieu est là présent pour être humble. Je ne peux pas autrement. Donc, il y a dans l'humilité, il y a quelque chose de très très important à saisir au point de vue éthique, religieuse, de saisir les liens entre la vérité pratique et l'humilité. La vérité pratique consiste à me situer relativement à Dieu. Relative à Dieu. Et relative à Dieu par rapport au Dieu créateur. Par rapport à Dieu qui me donne son amour. Par rapport à Dieu qui me donne son intelligence. Alors à ce moment-là, je reconnais cette vérité pratique qui consiste à être relative à Dieu. À ma place. Je me mets à ma place. Vous voyez, là, on comprend comment l'adoration est une condition sine qua non pour entrer dans l'humilité. Je crois que s'il n'y a pas l'adoration, je ne peux pas entrer dans la véritable humilité. réalisme de l'intelligence. Et que je peux dire que l'ontologisme est l'orgueil fondamental de l'intelligence qui fait passer devant les idées et nos propres opinions par rapport à ce qui existe. Ça, c'est l'orgueil fondamental. Et cet orgueil fondamental ne peut pas aller avec la découverte que je fais de l'existence de Dieu. Qu'il s'agisse de l'ontologiste de droite ou l'ontologiste de gauche, c'est un orgueil fondamental d'exalter l'homme dans son intelligence au-delà de l'amour. Alors j'arrive à cette conception de l'humilité au plan philosophique. Et je crois qu'elle est très importante à bien saisir que l'humilité consiste à accepter que l'amour peut aller plus loin que l'intelligence par rapport à l'exercice pratique de ma vie. Je reconnais que la réalité existante passe devant moi et que quand il s'agit des réalités qui sont plus grandes que moi, je ne peux les connaître vraiment qu'en les aimant. Les réalités qui sont plus grandes que moi, c'est le prochain et c'est Dieu.
Leur gueule.
c'est-à-dire dans une